Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Être libriste et responsable des systèmes d'information d'une association, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également programme, pop-up et fenêtre modale, et la couleur de nos cerveaux. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 20 septembre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, il est aussi à l'aise derrière un potard que derrière un micro, mon collègue Frédéric Couchet.
Merci, bonne émission à vous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Premier sujet, mais surtout première chronique de notre nouvelle recrue qui rejoint l'équipe pour cette sixième saison de Libre à vous. Cribouilleur, scribouillard, docteur en informatique, généraliste conventionné secteur 42 et framasoftien de longue date, J est un auteur touche-à-tout qui s'est fait connaître comme dessinateur des blogs BD de Geekscionnaire ou et Grisbouille, mais qui écrit également de la musique, des romans et des chroniques audio. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir J au sein de l'équipe et ici dans les studios de la radio pour sa première. Alors J, au fil de tes chroniques, tu vas nous exposer ton humeur du jour, donc des phrases que des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Tu vas partager ce qui t'énerve, ce qui t'interroge, te surprend, t'enthousiaste, toujours avec humour, nous dis-tu. L'occasion peut-être, derrière toutes ces boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Et je crois qu'aujourd'hui, tu voudrais nous parler de pop-up et de fenêtres modales, un sujet au potentiel comique évident.
Exactement. Et salut à toi, public de Libre à vous. Donc, pour cette première chronique, effectivement, j'ai décidé de te parler de pop-up, d'overlay et de fenêtres modales sur le web. Pour les néophytes, en gros, ce sont tous les petits trucs qu'on nous colle devant nos sites web, en général sans qu'on ait rien demandé. Alors, je suis pas à proprement parler un vieux de la vieille, mais j'ai quand même découvert le web au moment où il commençait à se démocratiser en France, aux alentours de l'an 2000. Et à cette époque, on subissait souvent une sale bestiole, aujourd'hui heureusement à peu près disparue, la pop-up. Alors je sais, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc., etc. Donc, pour les moins de 20 ans, je précise, la pop-up était une petite fenêtre qui s'ouvrait en plus de la fenêtre du navigateur quand tu cliquais sur certains liens. En général, avec de la pub dedans. C'était assez désagréable, on passait notre temps à fermer des fenêtres intempestives et on a assez vite inventé des bloqueurs de pop-up pour faire ça automatiquement. Sauf que bien sûr, ça a marqué le début de la course à l'armement entre pubard et anti-pub. Très vite, les pubs ont été intégrées aux pages web, parfois dans des proportions un poil exagérées. La palme dans le genre revenait sans doute à Lycos, ouais je sais, ça nous rajeunit pas. Hein. Lycos donc, qui, après avoir acheté les pages perso Multimania en janvier 2001, les a méthodiquement pourries avec tellement de pubs superposées qu'on finissait par chercher les 3 pixels de contenu qui dépassaient derrière les 15 surcouches de pubs. Et de la pub de qualité, hein, du gif animé, strass et paillettes, voire même de la bonne vieille animation flash bien lourdingue, comme on n'en fait plus, ce qui n'est sans doute pas plus mal. Mais comme un juste retour de karma, Lycos a depuis fini dans la vaste poubelle du web, non sans avoir également flingué Caramail auparavant, mais c'est une autre histoire. Bref, la pub intégrée aux pages n'a en revanche pas vraiment disparu, bien au contraire. Les pubards ont juste compris qu'il valait mieux éviter de la mettre au-dessus du contenu, tu me diras, c'est déjà ça. De notre côté, on a bien sûr adopté en masse des bloqueurs de pubs comme uBlock Origin, et puis les sites ont intégré des détecteurs de bloqueurs pour nous envoyer des messages culpabilisants, etc., etc. Ceci étant dit, ce serait assez injuste de résumer les overlays et les fenêtres modales, ces petites surcouches qui s'affichent sur une page web, à la pub. Et non, car les webmasters rivalisent d'inventivité quand il s'agit d'enquiquiner les gens qui visitent leur site web. Par exemple, il y a quelques années de ça, moi j'avais reçu un mail d'une agence de com lambda qui voulait me vendre sa technologie révolutionnaire. Je t'en lis un extrait. Savez-vous que 70% des visiteurs qui quittent un site ne reviendront jamais? Notre technologie vous permet de capter les adresses mail des visiteurs sortants. Grâce à notre algorithme, nous analysons le comportement du visiteur pour détecter quand il va partir et nous collectons alors son adresse mail pour le faire revenir. Mais ça par exemple, mais ça a l'air génial. Bon, en fait, si je fais une traduction faux cul français, En gros, leur truc, ça attend que ton curseur se rapproche du haut de la page, là où il y a la croix pour fermer l'onglet, et ça t'affiche alors une fenêtre modale d'inscription à la newsletter. Waouh. Bon alors déjà, me présenter comme révolutionnaire une techno que je peux probablement coder après un tuto de 20 minutes de JavaScript, c'est un peu gonflé. Mais en plus, sérieusement, est-ce qu'il y a une seule personne dans le monde que ça n'emmerde pas profondément ce genre de truc ? Je veux dire, de deux choses l'une. Soit j'allais effectivement fermer l'onglet, et sincèrement, un truc comme ça qui me saute à la tête comme un Pokémon dans les hautes herbes, ça risque pas de me faire changer d'avis. Soit j'allais juste cliquer sur un autre onglet, où j'avais juste bougé ma souris vers le haut, hein, comme ça, sans raison, de me faire agresser par votre fenêtre moisie, ça risque au contraire de me donner envie de fermer la page et de ne plus jamais y foutre les pieds. Non, je serais curieux de connaître le nombre de personnes qui laissent effectivement leur adresse mail en voyant ce genre de fenêtre leur sauter à la tronche. Une vraie adresse mail, hein, pas zizi@yopmail.com, hein, non, non. Non, combien ne sont pas tout simplement saoulés par ces incessantes demandes d'inscription à la newsletter ? Bon, le mail de l'agence de com ne le précisait pas, donc j'en sais rien, mais je devine assez bien. Bon allez, je me calme et j'aborde un dernier overlay qui a une certaine tendance à agacer, le foutu bandeau de consentement aux cookies. Tu sais, celui où t'as le choix entre accepter et accepter quand même. Ou alors tu peux appuyer sur la croix, hein, ce qui veut dire accepter aussi. Ouais, alors tu vas me dire, oui, mais là les sites n'y sont pour rien, c'est la réglementation, le RGPD, tout ça, la folie administrative, on nous met des bâtons dans les roues, de toute façon on n'aime pas les entrepreneurs dans ce pays, et puis remets-moi un petit canon, Roger. Non, 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 le fameux bandeau RGPD, c'est pas obligatoire. En fait, ça n'est obligatoire que si le site vous piste avec des petits cookies et des petits traceurs. Mais ça, les sites web sont pas obligés de le faire. Par exemple, prenons un site web au hasard. Tiens, celui de l'April. Oui, c'est le hasard. Sur le site de l'April, aucun bandeau d'acceptation des cookies. Pareil pour le site de l'émission Libre à vous, hein, d'ailleurs. Pareil si je vais sur les sites de Framasoft, de la Quadrature du Net ou de Wikipédia. Et donc si les fameux sites qui nous collent des overlays de 3 pieds de long pour nous demander si on consent à se faire espionner voulaient vraiment arrêter d'emmerder les gens, ce serait simple, arrêter de nous pister. Mais bon, ça c'est comme pour les pop-up de pub, hein, on va pas se faire trop d'illusions. On n'a pas fini de devoir développer des bloqueurs pour toutes les saletés que les entreprises du web essaient de nous refourguer. Mais franchement, on assume. Voilà, j'espère que cette première chronique vous a plu, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle humeur. Salut.
Salut G. Eh bien, nous allons faire, après cette superbe chronique, une pause musicale. Donc après cette pause musicale, nous parlerons avec Laurent Cossy et ses invités qui évoqueront la question des responsables des systèmes d'information d'une association et qui sont également libristes. Mais avant cela, nous allons écouter Dawn par Summer Toast. On se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Retour sur Cause Commune, la voix des possibles. Vous venez d'écouter Dawn par Summer Toast, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant à notre sujet suivant. Alors salut Laurent, nos auditrices et auditeurs fidèles te connaissent car tu interviens régulièrement dans l'émission. Déjà en tant que chroniqueur, hein, tu nous proposes une fois par mois avec ta fille Laurette une pastille humoristique et pédagogique intitulée « À cœur vaillant, la voix est libre ». C'est une chronique qui essaie de vulgariser des enjeux techniques autour d'Internet et de l'informatique et qui s'inscrit dans ton activité bénévole à l'April. Et puis en plus de ces chroniques, tu as plusieurs fois eu l'occasion d'animer des sujets longs comme tu vas le faire aujourd'hui. Et que tu vas continuer à le faire d'ailleurs et sur une base encore plus régulière car mensuelle puisque les CMEA et l'April ont signé une convention de coopération pour cela. Donc aujourd'hui donc c'est ta première animation de la saison 6 de Libre à vous et cette intervention rentre donc dans le cadre de la convention signée entre l'April et les CMEA et c'est en tant que militant salarié des CMEA que tu interviens aujourd'hui.
Tout à fait Étienne, merci pour cette entrée en matière. Bon, je ne sais pas si on peut préciser un peu le contenu de cette convention, mais l'idée c'est de faire coopérer et de présenter un peu les logiciels libres selon deux approches. L'April effectivement historiquement sur depuis 1996 sur les logiciels libres et sur les aspects politiques techniques et puis les CMEA plus sur la question de l'éducation nouvelle, donc sur comment s'approprier ces outils-là qui sont cohérents avec le projet des CMEA. Donc cette convention-là trouve un sens certain et on va essayer du coup de la mettre en œuvre au fil des mois à venir, quoi.
Super. Alors voilà. Du coup, c'est dans ce cadre aujourd'hui que tu vas nous parler du fait d'être responsable SI dans une association et libriste en même temps avec tes invités. Donc je te laisse la parole.
Merci Étienne. Alors effectivement, l'objectif de l'émission, c'est de donner un peu à voir la diversité des manières de gérer les systèmes d'information dans les associations. Alors évidemment, ça va refléter en grande partie aussi la très grande diversité des associations. Prendre conscience peut-être de l'importance de considérer cette fonction dans les associations parce que évidemment, ça reste parfois un impensé. Essayer de voir les clés qui peuvent aider les associations à migrer vers des solutions libres et éthiques, parce que évidemment c'est pas toujours simple, on se consacre à l'objet de l'association mais quand il s'agit de revoir les outils c'est plus compliqué parce qu'il faut bousculer les habitudes, et puis on va essayer de passer un bon moment aussi quand même, il n'y a pas de raison. Voilà, donc du coup pour cette émission, Étienne.
Je voulais juste préciser aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio, donc sur le site Cause Commune, bouton de chat, salon libre à vous, et j'essaierai au mieux de relayer les questions qui pourraient être posées avec la fait qu'aujourd'hui, la spécificité qu'on ait deux interventions à distance et qui peut être difficile effectivement dans le rythme de l'émission, mais je ferai au mieux pour relayer vos éventuelles questions.
Merci Étienne. Alors normalement, nous avons à l'autre bout du fil Zatalise.
Bonjour.
Bonjour Zatalise, très bien. Nous avons en studio François Audirac.
Bonjour.
Et nous avons aussi encore à l'autre bout d'un autre fil, Mathieu Bossart.
Bonjour à tous.
Très bien, donc tout le monde est là. On va pouvoir commencer, alors très simplement, hein, on va faire un petit tour de table et de fil du coup. Je vais vous demander respectivement à chacun et à chacune vos parcours et puis qui vous êtes. Voilà, et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc on va peut-être commencer par Zatalise.
D'accord. Mon parcours, alors c'est un petit peu spécial par rapport à d'autres. J'ai pas du tout de formation dans l'informatique à la base. Je me suis formée sur le tas, en fait, dans les associations dont je faisais partie. Et c'est comme ça, à force de discuter avec les gens qui étaient compétents et qui m'ont transmis un peu les trucs, que j'ai appris à faire. Et puis à un moment, dans une des associations, les techniciens sont tous partis et je me suis retrouvée à devoir gérer des serveurs toute seule. Donc j'ai mis les mains dans le cambouis et j'y ai pris goût.
Merci. François ?
Oui, alors moi je suis de formation scientifique. J'ai une formation initiale plutôt en mathématiques avec un petit peu d'application à l'informatique au début, hein, donc quand on était à l'initiation à la programmation en université. Ensuite, j'ai été professeur des écoles, donc en école primaire, où là aussi j'ai intégré le numérique à mes pratiques pédagogiques. Internet passant par là, j'ai découvert les quelques sites qui, à travers les logiciels éducatifs, quelques sites comme Framasoft et comme la fabuleuse équipe d'Abuledu, que je remercie au passage aussi, qui m'a un peu initié à tout ça, et pour finalement, il y a 5 ans, partir sur une reconversion professionnelle et être maintenant, on va dire, administrateur système et réseau de CMEA, mais je développerai ça tout à l'heure.
Merci François. Mathieu, est-ce que tu es toujours là?
Oui, toujours, bien sûr. Vous m'entendez?
Très bien.
Bon, donc moi, je suis suivi une formation à la base en biologie-écologie, et puis donc à la suite de cette formation, à la fin des années 90, j'avais à exercer faire mon service militaire, et j'ai été à la place objecteur de conscience dans une station biologique en Camargue, et puis c'est au fil de discussions avec la personne qui venait d'être recrutée sur les aspects de gestion de base de données que j'ai éprouvé de l'intérêt pour cela, et je suis parti en formation, j'ai fait un DSS d'informatique à Montpellier en 2003, à la suite duquel j'ai intégré l'association dans laquelle je travaille toujours, mais qui était une petite asso à l'époque, Alors, on était quand même 11 salariés, mais rien à voir avec ce qu'on est devenu maintenant. Et ben, au fil du temps, en plus de la gestion de données, j'étais un petit peu tiqué comme celui qui aimait bien les ordi, et donc j'ai récupéré cette charge de gestion du réseau et du parc. Mais voilà, la structure grossissant, on a été amené à compléter l'équipe sur ces aspects-là, mais je suis maintenant responsable et co-responsable suite à la fusion avec l'équipe de Midi-Pyrénées du système d'information.
Merci beaucoup. Alors bonjour à un objecteur de conscience, hein, je l'ai été aussi, il n'y en a plus beaucoup à notre époque, mais voilà. Et puis peut-être préciser aussi, pour donner un ordre d'idée par rapport aux associations, il faut savoir que quand on parle de petites associations, dans le paysage français, 85% des associations, des 1,3 million d'associations en France, finalement, sont sans salariés. Voilà, donc faut qu'on puisse situer ce qu'est une petite association, une moyenne association, une très petite, une très grande. Voilà, donc c'est vrai que quand on a des salariés dans une association, c'est déjà parmi 15% des associations qui emploient des salariés. Voilà, c'était une petite précision pour que les gens puissent situer un peu ce qu'il en était. Je vous propose peut-être maintenant de passer en revue les associations dans lesquelles vous êtes impliqués pour expliquer ce qu'elles sont. Et on verra après ce que vous y faites, mais dans un premier temps, n'hésitez pas à expliquer un peu l'histoire aussi et comment le libre est arrivé dans votre association. On garde le même sens de tour de table et de fil, ça vous va, Zatalise?
Ok, d'accord. Alors moi, le truc, c'est que finalement, je suis responsable informatique dans plusieurs associations. J'ai commencé avec Kaganat, qui est une association qui, en gros, encourage à libérer les imaginaires. Et donc, on crée un univers sous licence libre et on s'en sert comme excuse pour travailler sur plein de projets, entre autres du jeu vidéo. Et donc, tout ça nous demandait des outils numériques. Dès le début, on est parti sur du logiciel libre et c'est là que vraiment, moi, j'ai appris à gérer l'ensemble du projet informatique. Et puis au bout d'un moment, sur Kaganat, on s'est dit qu'on passait beaucoup plus de temps à faire des services qu'à faire le projet lui-même. Et donc il y a eu une discussion au niveau de l'équipe pour dire, bon, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on découple un peu le fait de gérer les pattes d'un côté et le fait de faire un univers libre de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé donc l'association Numénaute, qui est assez récente, elle a moins de 2 ans. Numénaute, cet objectif-là, c'est vraiment uniquement de fournir des services web à des assos ou à des particuliers. Et comme on était plusieurs à s'amuser à ça, on a vraiment commencé à ouvrir. Donc on héberge Kaganat, mais on héberge aussi une autre association qui s'appelle Million Meeting France, sur laquelle je suis aussi membre, et qui, elle, par contre, ne vient pas du tout du milieu libriste. c'est une association qui milite pour la reconnaissance d'une maladie en France, qui s'appelle l'EM. Et donc là, c'est tout un autre travail encore pour justement répondre à des besoins qui sont vraiment différents. Donc voilà, 3 assos sur lesquels je gère la partie informatique, on va dire, et qui ont vraiment des buts assez différents. Sachant que derrière, je fais aussi partie de l'association Framasoft, mais là, je délègue toute la partie technique à des gens qui sont vraiment beaucoup plus compétents que moi pour gérer le nombre de gens qu'on a chaque jour sur nos services. Voilà, en gros, s'il y a des questions.
Oui, alors tu es impliqué dans plusieurs associations. Alors peut-être expliciter ce que veut dire EM pour les auditeurs et les auditrices.
Ouais, l'EM, c'est donc ça, en plus long, c'est l'encéphalomyélite myalgique. C'est une maladie qui est assez invalidante, qui peut mener à être cloîtré au lit toute la journée. Et qui, depuis le problème du Covid, commence à exploser en France. Donc ça va toucher de plus en plus de personnes. Et donc on a vraiment des enjeux pour... au niveau numérique, là, absorber les gens qui viennent sur nos sites.
Merci, c'est important de le préciser, parce qu'on n'est pas là que pour de l'informatique non plus, on peut apprendre de nouvelles choses. Donc moi, j'ai découvert cette maladie, je ne la connaissais pas en préparant cette émission. Donc, merci pour cet éclairage. Et j'avais peut-être une deuxième question par rapport au Numénaute. Est-ce que ça fait partie des chatons, ou est-ce que vous avez l'intention d'en faire partie?
Alors, ça ne fait pas encore partie des chatons parce qu'on est des perfectionnistes et on veut vraiment faire les choses bien. Et que pour l'instant, on en est encore beaucoup à la phase de mettre en place les choses. Donc, on ne se sent pas encore suffisamment bon pour être chaton. Mais c'est l'objectif et on est vraiment dans cet esprit-là aussi.
D'accord, merci. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, chaton, collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Hein. Un collectif initié par Framasoft. Donc, on en a déjà parlé dans l'émission. On pourra mettre une référence, je pense, dans la page de l'émission. François, parle-nous des CMA.
Alors, les CMA, au contraire, c'est une vieille association. Elle est née en 1937. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais c'est une association au départ qui est formée par des enseignants et qui travaille sur le temps périscolaire, notamment des vacances. Et depuis 1937, c'est devenu un organisme de formation qui est principalement connu pour organiser des stages. Alors, BAFA, donc c'est le brevet d'animateur, et BAFD, le brevet de directeur, donc pour les accueils de mineurs, de centres de loisirs, colonies de vacances, mais c'est aussi un organisme qui est important, donc c'est 300 salariés sur le territoire métropolitain et outre-mer, et ça a aussi vocation à œuvrer, parce que c'est vraiment c'est pas juste un organisme de formation, c'est aussi un mouvement militant avec des propositions et des revendications, et les CMA interviennent dans le champ de l'international, dans le domaine de la culture, avec la participation à de nombreux festivals. Si on a des actions sur le milieu des médias, du travail social et de la santé mentale. Voilà, donc c'est vraiment un panel assez large de du champ de l'éducation, et donc c'est un mouvement qui porte haut des valeurs d'émancipation du citoyen.
Et si on devait expliquer un peu l'éducation nouvelle, qui est quand même très caractéristique des CMA, comment tu l'expliquerais aux auditeurs, aux auditrices ?
Donc, mouvement d'éducation nouvelle, c'est rendre le participant, le citoyen, acteur de sa transformation. Voilà, c'est aussi un principe disant que tout le monde est capable de transformation et que on peut, par des dispositifs d'action, d'autonomie, faire en sorte que cette personne-là s'émancipe par elle-même.
Donc c'est un peu concomitant de l'éducation populaire, hein, c'est des choses qui se recoupent, mais effectivement, les CMA sont identifiés vraiment comme un mouvement d'éducation nouvelle, quoi. Merci. On pourra peut-être préciser que l'année dernière, à la même époque, en septembre, je n'ai plus la date exacte, je crois que c'était le 28 septembre, Morgane Perroche et Jean-Luc Cazaillon des CMA étaient intervenus justement pour expliciter longuement comment était arrivé le libre au sein des CMA. Donc vous pourrez écouter cette émission-là si vous le souhaitez. On mettra la référence sur la page de l'émission, je crois que je l'ai déjà poussé. Du coup, on va passer à Mathieu.
Très bien. Donc moi je suis salarié donc du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Donc c'est une association de protection de la nature qui a un agrément avec l'État et la région. L'objectif général de l'association, c'est de préserver et valoriser le patrimoine naturel, et donc au service de la biodiversité, bien sûr, et on fait ça le plus possible avec les usagers et les acteurs du territoire. Donc on va mettre en place collectivement des projets de gestion, de connaissances, et puis des projets concrets de transition écologique sur le territoire. Notre métier principal, c'est donc gérer les espaces naturels, et on va, pour l'activité et ce qu'on va pouvoir proposer aux bénévoles de l'association, c'est de nombreux chantiers, animations, en lien avec nos activités. Il y a un CEM par région, ou presque, qui sont fédérés au sein d'une fédération qui est basée à Orléans. Et donc, Laurent le disait, oui, nous, on a la particularité d'être donc en fait une grosse association. Hein. Nous sommes maintenant, suite à la fusion des régions, le CEM Occitanie, c'est maintenant plus de 100 salariés, répartis sur 14 sites dans la région, donc avec, comme beaucoup d'associations, un conseil d'administration, mais aussi un conseil scientifique. Et tout ça nous conduit à gérer presque 30 000 hectares sur la région Occitanie, et puis dans ces 30 000 hectares, on a 1000 hectares en propriété à peu près. Et chez nous, en fait, ce qui a été très structurant et ce qui a amené le logiciel libre dans nos structures, on a un fonctionnement assez commun, je pense, entre les différents CMA de France. C'est le volet connaissance qui a structuré beaucoup nos systèmes d'information, dans la mesure où on s'assoit sur la connaissance scientifique, et que donc très tôt on a été amené à gérer des problématiques de gestion de données et de partage de connaissances au sein des équipes, mais aussi à l'extérieur. Et donc assez tôt quand même, on a fait rentrer dans nos structures des systèmes de gestion de base de données libres. Et donc PostGIS principalement, enfin PostgreSQL et PostGIS principalement, et on y a connecté de plus en plus d'outils sur cet aspect strictement connaissance. Et donc après, par extension, disons, et puis aussi grâce à des sites comme Framasoft, on a pu étendre un socle logiciel basé en grande partie sur du libre. Et maintenant, donc au niveau du CEN, là, donc je vous ai dit, j'ai démarré, quand je suis arrivé moi dans la structure, on était 11 pour l'ex-région Languedoc-Roussillon, donc ça restait en termes d'équipe, en termes de taille d'équipe, une petite équipe sur un seul site. Donc moi je faisais ça en plus de mes réelles compétences en session de données. L'équipe ayant grossi, là nous sommes maintenant 3 personnes sur la partie connaissance, et depuis 2 ans on a quelqu'un qui s'occupe strictement, exclusivement de la partie informatique, système et réseau.
D'accord, c'est impressionnant, effectivement, 100 salariés sur 15 structures, alors j'imagine que ça pose aussi des questions.
Sur 15 sites, oui.
Sur 15 sites, oui, enfin pardon, 15 sites, je voulais dire 15 sites. J'imagine que du coup, ça questionne énormément sur le travail en réseau, sur structurer le système d'information pour réussir à travailler à distance. Ça aussi, ça a dû vous occuper à un moment.
C'est un gros challenge. On a fusionné les deux régions en septembre 2020. On était 60 à la fusion il y a 2 ans. Donc là, oui, je vous dis, on est 105, je crois, actuellement. Donc en effet, il a fallu réfléchir à comment interconnecter tous ces sites, comment faire pour travailler le plus possible ensemble. Et donc c'est passé par le recrutement d'une personne dont c'est le métier, la formation et qui a l'expérience.
Et il y avait préalablement des outils qui convergeaient ou il a fallu aussi faire des choix en se disant ce sera plutôt cet outil-là de cette région-là et cet outil-là de cette région-là?
Non, globalement, en fait, les outils convergeaient plutôt bien en termes de. Enfin, sur la partie connaissance, on utilisait les mêmes outils. Donc, il a été question de fusionner des bases de données et de rapatrier les bases de données de l'une dans l'autre structure. Donc ça n'a pas été trop compliqué. Ensuite, bon, sur les outils bureautiques, on est sur du classique, donc il n'y a pas eu de grandes difficultés. Non, sur les outils métiers, on était sur un socle à peu près commun. Donc disons que la difficulté, elle est plus liée en effet au travail en réseau qu'à l'utilisation des logiciels proprement dit.
Merci pour ces précisions. Je propose d'essayer de répondre après à la question qui concerne vos missions et les actions au quotidien que vous menez finalement. C'est quoi votre travail quotidien pour que les auditeurs et les auditrices puissent bien comprendre ce que vous faites? C'est quoi quelqu'un qui s'occupe du système d'information dans une association? Donc je sais pas, Zatalise?
Oui. Alors déjà, oui, j'oublie un petit peu une précision. On parlait justement de la taille des associations et c'est vrai que... Voilà, mais les deux autres personnes ont des gros assos. De mon côté, il faut quand même que je précise que les 3 assos où je m'occupe de la partie informatique, c'est des toutes petites assos et qu'on n'a pas du tout de salariés sur ce genre de trucs. Donc on a une façon de faire qui est très organique et très c'est celui qui est motivé au moment où qui fait les choses en gros.
Très naturel. Très naturel.
Voilà, donc ça a aussi un impact sur la façon dont les missions se font, dont l'action se fait. Typiquement, quand vous m'avez contacté pour faire les missions, ça m'a fait bizarre d'avoir ce titre responsable du système d'information parce que tout ça n'est absolument pas formalité dans nos structures, en fait. Oui, effectivement, c'est ce que je fais au quotidien, mais c'est pas quelque chose qui est formalisé. Et du coup, comment ça se présente? En gros, le travail que j'ai à faire, moi, ça va être de coordonner les gens qui vont agir sur la partie informatique, chacun amenant ses connaissances, étant plus ou moins à l'aise dans un domaine ou dans un autre, de canaliser aussi un petit peu les bonnes volontés, parce que quand on a des libristes motivés, il y a une petite tendance à vouloir installer tous les logiciels du marché sur le serveur, et puis aussi de motiver au quotidien à faire la maintenance, parce qu'une fois qu'on a installé un logiciel, qu'on a joué un petit peu avec, c'est bien, mais il faut aussi le mettre à jour les serveurs, etc. Et ça, c'est des tâches qui sont souvent moins rigolotes, qui sont un peu laissées de côté, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on essaie vraiment de prêter de l'attention. Voilà, et puis à côté de ça, donc ça c'est vraiment la partie gestion sur les parties techniques, on va dire. Mais il y a pour moi aussi l'importance de faire le lien avec les utilisateurs, avec des gens qui n'ont pas forcément des ressources, des facilités au niveau de la technique, et de voir justement quels sont les outils qui vont non pas leur ajouter du travail, mais simplifier leur travail. On a eu entre autres une grosse discussion sur MMF là-dessus, parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'informatique et qui avaient besoin de travailler ensemble en étant à distance. Et pour nous, le PAD a été vraiment un service qui a énormément été utilisé. Et qui reste très très important et qui est même plus utilisé que d'autres outils de GAFAM qu'ils utilisaient aussi à côté.
Merci pour ces éclairages. Alors oui, moi je converge avec ce que tu dis, hein. Le responsable SI, la qualification, elle est nécessaire quand on a besoin de remplir un organigramme, hein. C'est vrai que dans une petite association, ce terme-là, je comprends qu'il ne soit pas utilisé. Donc je comprends ton étonnement et enfin c'est tout à fait logique. Et puis ta remarque aussi sur bien prendre conscience de la différence entre la maintenance et puis installer, expérimenter des nouveaux services, je pense qu'elle est extrêmement importante. Souvent on confond les deux et puis on pense que la personne qui va initier un service, installer, expérimenter, va avoir envie de le maintenir, de le mettre à jour. C'est rarement le cas finalement. Donc cette précaution-là, elle doit être pensée pour que justement le service puisse être pérenne. Je pense qu'il y a des réflexions à avoir autour de ça, quoi.
Ouais, et puis il y a aussi un autre aspect que je ne faut pas que j'oublie parce que sinon je vais me faire gronder derrière, c'est que enfin, justement comme on est dans des structures où il n'y a pas d'organigramme précis, les rôles changent pas mal au fil du temps. Par exemple ces temps-ci j'ai beaucoup moins de temps pour m'occuper de l'informatique dans nos assos, mais par contre y a un autre bénévole qui lui a bien pris le relais, qui mériterait plus actuellement peut-être ce titre de responsable que je ne le fais, mais voilà, suivant les moments, ça va être l'un, ça va être l'autre, ça va être d'autres personnes qui viennent puis qui repartent. Et ça fait partie aussi des choses qui sont pas forcément simples à envisager quand à côté on a l'habitude du travail en entreprise. C'est vraiment une façon de fonctionner qui est très différente.
Merci beaucoup. Oui, effectivement, on l'a vu tout à l'heure au CMEA, des gens qui viennent de l'entreprise et qui arrivent dans une association, même au CMEA, les méthodes de travail sont pas du tout les mêmes, les entrées et les approches sont pas les mêmes. Merci pour ces précisions. François?
Oui, concernant mes missions, elles ont évolué. Donc, je suis arrivé il y a 5 ans au CMEA, un petit peu comme étant le responsable informatique, où j'ai hérité, on va dire, d'un informatique. Alors, l'expression à la papa peut-être un peu trop rapide, mais voilà, où on avait un informaticien qui arrivait en fin de carrière, qui gérait un petit serveur dans un coin, à l'heure où les outils numériques étaient en pleine expansion. Les CMEA venaient de faire développer un outil, alors on parlera dans d'autres circonstances, mais qui s'appelle Zurit, et qui faisait en sorte que toutes les associations des CMEA, donc petite parenthèse, il y a 26 associations des CMEA réparties sur les territoires, c'est pas les CMEA, il n'y a pas une seule entité, il y en a 26, et donc on arrivait au moment où toutes ces associations partaient sur un système à peu près homogène. Et donc il fallait accompagner tout ça, et donc moi je suis arrivé sur Paris où j'ai fait un peu l'état de l'installation actuelle. On a remis à peu près sur pied quelque chose qui était un peu plus solide et pérenne dans le temps, et puis après on était en pleine expansion du changement avec des sites internet qu'il fallait remettre d'aplomb, il y en a une cinquantaine. Enfin, donc c'était, on est vraiment. Moi, quand je suis arrivé, je suis vraiment arrivé à une période où on passait un cap d'un informatique un peu tranquille à finalement une expansion des services et une demande qui arrivait de plus en plus forte. Donc voilà, ça c'était sur les 5 années. Aujourd'hui, j'ai plus une dimension de directeur adjoint. Alors ça c'est mon titre aujourd'hui, mais une dimension globale des systèmes d'information, c'est-à-dire que à travers tous les axes là dont je parlais tout à l'heure sur la culture, l'international, etc. Ben je suis un petit peu, en tout cas la personne référente qu'on vient voir quand on a un besoin. Sur un service, une demande d'un outil numérique ou bien des interactions entre différents outils. Voilà, je suis la personne référente qui va pouvoir éventuellement rediriger vers soit la création d'un nouveau service ou bien l'adaptation d'un service existant ou bien au contraire une impossibilité parce que c'est pas possible. Donc c'est voilà, aujourd'hui c'est un peu ma dimension en sachant que j'hérite aussi de mon statut de directeur, aussi cette dimension réseau au niveau national, où je vais aussi être à l'écoute des demandes des associations territoriales et faire en sorte que quand un outil peut être pertinent, par exemple, dans une région, il puisse aussi être récupéré ou déployé sur l'ensemble des régions.
Merci pour cet éclairage. Le titre directeur adjoint des SI, je pense que c'est pareil, ça peut être une perspective pour Zatalyse, hein, directrice adjointe des SI dans ses associations, c'est pas mal. Mathieu, est-ce que tu peux nous éclairer ce qui se passe au CN?
Ouais, bien sûr. Bon, moi aussi, donc forcément, les missions quotidiennes, elles ont un petit peu évolué, puis elles évoluent encore, mais donc bah, historiquement, principalement de la gestion de données pour, on va dire, 80% de mon temps, hein, donc intégrer des données, puis proposer à mes collègues des outils à la fois de collecte et d'informations sur le terrain, mais aussi de restitution, principalement sous forme de cartes. Et puis, en parallèle de tout ça, de cette gestion de base de données stricte, il y avait la gestion quotidienne du parc informatique qu'on avait, donc mise à jour des antivirus sur les postes, un peu de débogage, mais tout ça donc forcément a évolué avec l'augmentation de la taille de la structure. Et donc bah, ces dernières années, ça a été beaucoup plus de gestion et d'anticipation un petit peu de besoins informatiques, hein, d'achat de matériel, discussion avec la direction en fait, de qu'est-ce qu'on achète comme matériel, vers qui on se tourne, qu'est-ce qu'on met en place comme solution, qu'est-ce qu'on vise comme architecture, qu'est-ce qu'on prévoit, est-ce qu'on pourrait pas prévoir de recruter quelqu'un, donc discuter un petit peu de tout ça. Donc ça a été les dernières années, ça a été ça. Il y a eu la mise en place pour moi de services. Juste au début de la période Covid, de pouvoir répondre à des besoins de travail à distance pour les collègues. Donc ça a été assez compliqué, mais en même temps très formateur et puis intéressant. Et puis aujourd'hui, du fait de l'arrivée d'une personne qui est vraiment compétente sur la partie informatique, donc c'est plus un niveau plus de discussion et de réflexion avec la direction et mes collègues, soit à Toulouse, soit le collègue informaticien, de bah, quelle solution on met en œuvre, qu'est-ce qu'on propose comme solution aux collègues. Donc c'est cet aspect-là qui va me concerner plus. Et puis je reviens un petit peu plus, mais avec plaisir, sur la gestion de la donnée et puis la proposition d'outils de collecte et la mise en place de solutions de collecte et de restitution de données pour les collègues.
D'accord. J'avais peut-être une question un peu bonus par rapport à tous les travaux que vous menez, chacun de votre côté. Finalement, tous ces travaux qui sont entrepris au sein d'une association, est-ce qu'ils servent à l'extérieur? Est-ce que vous arrivez finalement à promouvoir des outils du coup qui seraient libres et qui pourraient être utilisés par d'autres associations à l'extérieur? Alors évidemment, je connais un peu les CMA et la solution Zurit, mais est-ce que par exemple au CEN, ça se produit? Est-ce que... Alors j'imagine que pour Zatalis c'est un peu plus compliqué étant donné la taille de l'association, mais peut-être que pour le CEN il y a eu des transferts de compétences à d'autres associations.
Oui, il y a eu en fait, alors de manière un peu amateur, hein, sans dire, enfin c'est pas péjoratif, mais sans forcément de cadre informatique et informaticien qui s'est occupé de ça à l'époque, mais en 2009 par exemple on a eu un gros besoin de travailler en commun, donc on a créé une application web de collecte d'informations, donc avec une interface cartographique sur le web, qui existe toujours, qui est super vieille, mais qui fonctionne toujours bien, et qui s'est un petit peu connu, on l'avait dit, et diffusé de manière libre et que chacun a pu modifier. Donc on a fait ça à l'époque de manière vraiment très peu structurée, très peu cadrée. On a partagé ça. Ensuite, là, beaucoup plus récemment, on met en œuvre une solution de collecte d'informations sur le terrain, donc qui s'appelle, on va faire la promo, mais qui s'appelle Open Data Kit, qui est une solution de formulaire sur téléphone Android et sur le web. Et donc cette solution est intéressante parce que d'une part elle est libre, mais aussi les formulaires qu'on va décrire, en fait, ce sont des tableurs au format XLSX. Donc on va pouvoir nous réellement partager les outils de collecte des données qu'on met en place. Donc là c'est complètement d'actualité. Au congrès là, qu'on va avoir entre les scènes au mois d'octobre, voilà, on va présenter le site qu'on met en place pour diffuser nos formulaires de collecte de données sur téléphone. Donc toute structure intéressée pourra télécharger le formulaire et l'installer sur son téléphone et éventuellement l'adapter à un autre besoin, un besoin propre. Donc, mais globalement, on a toujours considéré nos méthodes comme les outils informatiques, dès lors qu'on met quelque chose en place, on essaie de le partager, en tout cas, si quelqu'un est intéressé, de lui faciliter la tâche pour le réutiliser. Ouais.
Open Data Click, hein, c'est ce que j'ai compris, c'est bien ça?
C'est ça.
D'accord, merci. Peut-être deux mots sur l'histoire de Zurit, parce que justement, il y a eu ce basculement-là, on l'a déjà expliqué dans l'émission de septembre 2021, mais très rapidement peut-être, François?
Oui, rapidement, Zurit, c'était une solution pour répondre à un besoin de messagerie, de gestion de contact, de cloud, de visio, de pad, de choses comme ça, tout ça mélangé dans un pack. Tout ça aussi basé sur évidemment des logiciels libres, à l'initiative des CMA qui ont payé du développement, et aujourd'hui, donc cette solution on l'utilise en interne, et on a aussi donc mis à disposition, alors moyennant un petit forfait pour la consommation des datas, mais le même outil à disposition des associations qui défendent des valeurs similaires aux CMA et aux Libram.
Merci François. Je vais repasser la main du micro à Étienne.
Merci Laurent. Peut-être juste préciser, effectivement, si vous voulez creuser un petit peu cette question de ce qu'est Zurich et de ce que font les CMA, c'est aller sur le libreavoue/116 pour réécouter cette émission ou en relire la transcription. Donc effectivement, nous allons faire une courte pause musicale. Nous allons écouter Night par Cosmo Rider. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Venons d'écouter Night par Cosmo Rider, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY. Une découverte musicale de nos habits d'onboutdufil.com.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Et je vais rendre la parole à Laurent Costi et à ses invités qui nous font part de leur retour d'expérience du fait d'être libriste et responsable SI au sein d'une association responsable des systèmes d'information. Laurent.
Oui, donc on retrouve nos trois invités, François, Mathieu et Zatalise. Alors je vais avoir une triple question pour cette période d'émission. Alors donc soyez vigilants parce que je vais les enchaîner, donc je vous laisserai répondre dans l'ordre que vous voulez, mais en fait ça concerne un peu la politique de l'informatique au sein de l'association. Donc je vais vous lire les questions, puis après on pourra décomposer si c'est trop compliqué, trop rapide. Comment est pris en compte l'enjeu politique lié au choix des outils dans l'association? On a donné quelques éléments de réponse, mais je pense qu'on peut préciser encore. S'il y a une prise en compte, comment cela s'est produit dans l'histoire de l'association? Et une fois appréhendé politiquement, est-ce que le fleuve reste tranquille par rapport à ses positionnements, le cas échéant? Zatalise?
Moi j'ai deux cas vraiment différents. D'un côté, Kaganat et puis ensuite Imenot, on les a fondés vraiment en ayant le libre en tête. Donc ça ne s'est jamais trop posé comme question, c'était plus de trouver les bons outils libres que de se poser la question de si c'est libre ou pas. Finalement, on a eu des interrogations plus tard dans l'évolution de l'association, quand il a fallu passer par quelques outils non libres, type Facebook, Twitter et tout ça, en disant est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce qu'on veut vraiment passer par ce genre de choses. C'est ça qui nous interroge le plus finalement au quotidien, et on a tendance à avoir vraiment des usages extrêmement modérés de ce genre d'outils, même si on reconnaît que par moment c'est quand même nécessaire aussi pour pouvoir toucher un public plus large. Et puis à côté, ben, Million Missing, ça a été un petit peu l'inverse, parce que c'est un groupe qui s'est fondé sur Facebook, et puis qui, parmi les responsables, il y avait quelqu'un qui était déjà sensibilisé au libre, et donc qui est venu me voir en me demandant comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que les gens ne soient que sur Facebook, que avec les outils des GAFAM. Et donc c'est là que j'ai commencé à proposer des outils pour qu'ils ne soient pas dépendants uniquement de ces grosses plateformes et qu'ils aient leur propre autonomie. Et donc toute la... là, c'est... on est vraiment sur un autre... une autre discussion, de vraiment être à l'écoute de leurs besoins, de voir où sont leurs habitudes et qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui va être problématique. Typiquement, les faire sortir de Facebook complètement pour l'instant, ce serait absurde parce que c'est comme ça aussi qu'ils trouvent les personnes qui font l'objet de l'association, c'est-à-dire les malades, les proches des malades et tous ces gens-là qui peuvent aider. Voilà, donc c'est vraiment finalement un équilibre qu'il y a à trouver à chaque fois. Sachant quand même que bah, finalement il y a toute une partie aussi où justement on essaie de ne pas contraindre les gens, que ce soit dans Kaganat, Numenot ou MMF, de dire aux gens bah, commencez par utiliser les outils que vous connaissez, mais à partir du moment où on travaille ensemble, il faut trouver un outil que tout le monde maîtrise, ou au moins un format qui nous permette de transmettre les documents d'un truc à l'autre. Et je me rends compte quand même que le libre a cet avantage-là de pouvoir s'adapter aux gens. Donc à partir du moment où on a changé les images de fond, où on a fait un petit peu de bidouille sur le CSS ou ce genre de choses, finalement les outils libres ont tendance à être vraiment facilement adoptés et à plutôt plaire aux gens. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça demande vachement plus de boulot derrière.
Non mais c'est extrêmement intéressant, ces deux approches qui sont finalement à l'opposé hein, quelque part, de prendre conscience aussi que même si on est une association libriste au départ, à un moment donné on a des discussions en interne pour faire des choix, de savoir si on doit quand même un peu utiliser les outils mainstream on va dire, mais quelles limites on se donne, etc. Enfin, je trouve que ces deux approches là sont extrêmement intéressantes et éloquentes pour appréhender comment ça peut se passer au sein d'associations. François ?
Oui, alors sur l'enjeu politique, au CMR en tout cas, il y a une évolution entre l'idée au départ, donc il y a une dizaine d'années où on voit que le libre fait écho avec les valeurs qui sont défendues au sein de l'association, mais sans voir nécessairement les implications. Oui, on est pour la protection des données, on défend les logiciels un peu ouverts, etc. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on a une vraie évolution avec une vraie prise de conscience, y compris des militants, des salariés des CMA, qui se disent que c'est une vraie plus-value, parce que, d'abord, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment partagé, notamment grâce à Zurich, mais aussi à des tas d'autres outils qu'on a pu développer et qui ont servi de démonstration des avantages du libre. Sur la personnalisation, sur l'aspect économique, c'est pas vraiment ce qui est mis en avant, parce qu'au CMA, on achète ou on loue des services libres, on paye des prestataires pour qu'ils nous installent des services libres, on fait développer des fonctionnalités qui sont ensuite remises dans le pot commun du numérique. Et aujourd'hui, on a vraiment un mouvement, on va dire, de base. Et ensuite, par-delà même, les personnes qui sont chargées d'animer ce réseau-là de militants, de la prise en compte du libre en disant c'est un élément incontournable des systèmes d'information. Et ça, c'est vraiment, je trouve qu'il y a une évolution entre, on est d'accord avec ce que ça défend, avec aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant et qu'on défend. Après, sur la deuxième partie de la question, enfin la troisième partie, c'est est-ce que ça reste un long fleuve tranquille ? Et non, jamais, et bien sûr, et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est que les personnes, elles changent. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux militants qui arrivent, des nouveaux salariés, des nouveaux directeurs, et il faut continuer de réexpliquer pourquoi est-ce que sur nos postes, on n'installe pas Google Chrome. Pourquoi est-ce qu'on est plus pour tel service, quels sont les services qu'on a installés, qu'on a développés en interne, et pourquoi ces services-là existent. Tout ça, il faut le réexpliquer, il faut continuer de défendre l'idée qu'il y a derrière et mettre en relation finalement ces services éthiques libres avec les valeurs qu'on défend au sein de l'association. Donc non, ça n'est pas un non-fleuve tranquille, loin de là.
Je connaissais la réponse en fait. Je vais peut-être sortir un tout petit peu de mon rôle d'animateur juste pour préciser deux choses aussi parce que je pense qu'elles éclairent encore la question de la relation du système d'information dans les associations. C'est la question du bouche à oreille. En fait, pour Zurich, on a constaté que les associations qui venaient solliciter le service étaient déjà finalement sensibilisées à la question des données, aux enjeux du libre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a évolué. Hein. Il y a 10 ans, il fallait expliquer aux associations ce que c'était, etc. Et là, on est passé dans une phase où on n'a même pas besoin de faire finalement de la promotion de l'outil pour que les associations viennent. Ça vient par le bouche à oreille et ça répond à ce besoin-là de protection des données. Quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, ce qui s'est produit, je crois, au sein des CMEA, c'est expliqué en septembre 2021, c'est qu'il y a un tiers qui est venu expliquer au sein de l'association ce que déjà des gens disaient au sein de l'association. Et c'est quand ce tiers-là est venu pour dire les choses que ça a été enfin entendu. En gros, c'était Framasoft qui était intervenu lors d'une manifestation organisée par les CMEA et c'est là que des gens ont ouvert les yeux en fait. Et ça, ce triptyque-là, je pense qu'il est extrêmement intéressant pour parfois débloquer des situations dans les associations.
Et peut-être pour compléter, en étant très court, on constate aussi à l'intérieur des associations, qu'on a des personnes qui ont été convaincues par le libre par le biais politique. C'est-à-dire qu'ils sont pas ou peu des techniciennes et que ça n'intéresse pas, mais qui sont vraiment convaincues par le bien fondé des valeurs que ça transporte par l'aspect politique et pas par l'aspect technique.
Très bien. Merci François. Je reprends mon rôle d'animateur et du coup, je demande à Mathieu un peu son point de vue sur ces trois questions.
Moi, je pense que chez nous, historiquement, il n'y a pas, enfin, c'est pas l'enjeu politique qui a fait qu'on a commencé à utiliser et qu'on a utilisé des solutions libres. Hein, clairement, je pense que ce qui s'est produit, bon, il y a, comment dire, ma perception et puis ma conviction à moi et puis mon expérience. Moi, j'ai appris l'informatique donc en 2003 sur des machines qui étaient sur Linux à la fac de Montpellier. J'avais pas d'ordinateur avant. Pour moi, l'informatique, ça s'est fait sur Linux depuis toujours et c'est au boulot que j'ai des postes Windows. Mais donc, au-delà de ma conviction personnelle, disons, ce qui s'est produit chez nous, c'est que, je vous ai dit, on avait cet enjeu de gestion de la donnée et que, ben, en fait, ce qui s'est passé simplement, c'est que les solutions libres qui étaient disponibles, en fait, qui pouvaient nous rendre ce service, elles rendaient un service qu'on n'aurait pas pu égaler avec même les solutions propriétaires à l'époque de travailler en commun, de mettre en place une base de données relationnelle en mode serveur dans l'équipe. C'était absolument pas atteignable et quand bien même on aurait pu l'atteindre, je suis pas sûr que sur les aspects cartographie, gestion de la donnée géographique, je suis pas sûr qu'on aurait pu faire ce qu'on a réussi à faire avec des logiciels libres à l'époque. Donc ce qui fait que dans la structure, le service qui est rendu par les logiciels libres, je pense que les collègues en sont conscients. Je pense que clairement la direction et les collègues en sont conscients, c'est sûr. Ils voient bien qu'il y a plein de choses qu'on ferait pas si on utilisait d'autres outils. Donc c'est comme ça que ça fait un peu de produit chez nous. Par extension, ensuite, on a toujours cherché quand c'est un besoin, on regarde s'il y a une solution en libre qui existe. Si elle existe, et on essaie de l'adopter. Si elle n'existe pas, on fait autrement. Mais on essaie quand même de promouvoir ces outils-là le plus possible. Mais donc clairement, sur les outils plus courants, l'argument il va aussi être simplement financier, j'allais dire. En tout cas, pour l'utilisateur final et peut-être pour la structure, ça va être plus ça va être ça l'argument. On va préférer former des collègues à un outil libre que acheter le CD ou le DVD de la solution propriétaire équivalente sans former l'équipe. Et donc avoir des gens qui seront des utilisateurs inexpérimentés d'un logiciel propriétaire. Donc ça c'est ce qui s'est passé chez nous, c'est ce qui se passe un petit peu. Et donc un long fleuve tranquille, ben non, c'est sûr que c'est pas évident de maintenir ça. Il y a des nouveaux collègues qui arrivent, ils ont chacun leurs habitudes. Ça, à la limite, je dirais que c'est indépendant de est-ce que c'est des logiciels libres ou propriétaires. Un collègue qui arrive avec ses habitudes dans une structure déjà en place, avec un système d'information déjà en place. Ben, il faut lui expliquer pourquoi on a mis en place cette procédure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois remettre en cause des procédures, mais il faut quand même réexpliquer qu'on veut travailler en commun et que donc on utilise des services qui nous permettent d'échanger l'information et que certes, ce serait peut-être plus pratique pour lui d'utiliser une solution, même libre, que lui connaît et qui va maîtriser, mais qui va le faire travailler de manière un petit peu isolée du reste de l'équipe. Donc il y a ce travail quotidien à faire, en fait, qui n'est pas évident. Et l'autre point, peut-être, sur le long fleuve tranquille, je crois que c'est François qui évoquait l'intervention d'un tiers, là. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Moi, j'ai le souvenir dans mon milieu, il y a beaucoup de photographes naturalistes, en fait, et donc pendant très longtemps, les photographes ont tous toujours... Ne voulait entendre parler que de Photoshop pour la gestion de leurs photos. Et dans le milieu naturaliste, il y a un photographe spécialiste des habitats naturels qui un jour m'a dit, qui était adhérent chez nous, qui un jour m'a dit, moi je ne travaille mes photos qu'avec le GIMP. Je lui ai dit, mais il faudrait que tu fasses la promotion auprès de mes collègues qui n'arrêtent pas de parler de la solution propriétaire, que toi tu fasses la promotion de cet outil-là, vu que en gros il te vénère en tant que photographe, c'est à toi de faire cela, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut un peu entretenir et puis trouver des moyens d'encourager et aussi de faire comprendre aux collègues que c'est pas que par conviction qu'on veut aussi utiliser les outils, hein, c'est aussi parce qu'ils marchent bien et qu'ils nous rendent des services. Mais ça, c'est pas toujours évident à faire passer comme message quand c'est l'informaticien qui porte le message.
Merci pour cet exemple. Je trouve que c'est vraiment éloquent, hein, ce tiers qui intervient et qui vient redire ce qu'on dit déjà, mais qui est entendu enfin, quoi. Et
j'aurais peut-être un petit point à ajouter.
Vas-y, je t'en prie.
C'est que sur le fait de penser au libre dans les associations, ça oblige, je trouve, aussi à se poser des questions. Qu'on soit libriste de base ou finalement, il y a toujours des moments où on va justement se poser un peu plus de questions. Je me souviens, entre autres, d'une grande discussion qu'on a eue sur Kaganat à un moment sur l'impact qu'avait le choix d'une licence plutôt qu'une autre et qui nous a fait cogiter pendant plusieurs mois. Mais aussi au-delà, dans des associations au moins libristes, où finalement le fait de commencer à se poser cette question de qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur et ce genre de choses, fait qu'on n'aborde plus les choses de la même façon. Typiquement sur Million Missing, il y a une attention qui est portée au droit à l'image, à l'utilisation des textes, qui n'est pas si courante que ça dans ce genre d'association d'habitude, et donc ça amène à se poser des questions qui finalement vont au-delà du logiciel pur.
Merci pour ces précisions. Je pense que c'est important de le rappeler aussi. On peut rappeler que la prise en compte de l'enjeu politique, elle va être aussi déterminante en fonction des personnes qui sont au sein de l'association, hein. Donc c'est pour ça qu'on a invité des responsables système d'information libristes, parce que évidemment ça change aussi l'évolution de l'association sur ces questions-là. Quelqu'un qui est aux manettes et qui va avoir un poids sur le choix des outils, évidemment, ça va enclencher un futur pour l'association différent.
Laurent, je vais relayer une question sur le salon web, préciser aussi que GIMP est donc un outil puissant d'édition et de retouche d'images sur lequel on avait consacré une émission, l'émission 140 sur Libre à vous. Alors sur le salon web, on constate qu'effectivement en gros les CMA demandent combien ça recouvre de personnes, constatant effectivement que cette prise en compte du libre est une force. Combien de personnes au CMA?
Alors François l'a précisé tout à l'heure, je crois que... Bah vas-y, je te laisse François.
Pardon, j'étais en train de lire le chat. Donc combien de personnes portent le...
Combien de personnes recouvrent, ça recouvre combien de personnes? Combien de personnes sont concernées par le système d'information? Je pense que c'est la question.
Ben finalement tous les salariés, puisque les messageries, les clouds, etc. Donc c'est 300 salariés et 10 fois le... Enfin, et 3000 militants... Ils sont parfois aussi avec des espaces zorides de leurs associations à part. Donc voilà, ça fait au moins 300 salariés et puis un bon paquet d'autres aussi qui utilisent aussi ces outils.
J'enchaîne un peu sur la question de la formation finalement, parce que pour que 300 salariés et 3000 militants puissent utiliser les outils, comment on fait? Alors la question au CMA, puis après on passera à Zatalyse, à un échelon plus bas, et puis au CEN tout à l'heure. François, peut-être sur la question de formation?
Oui, alors c'est vrai que la question de la formation elle est nécessaire, et quand on présente des nouveaux outils, il y a évidemment nécessité d'accompagner. Moi, je crois surtout que la formation, elle a une vertu, c'est qu'elle permet l'information. C'est-à-dire que ça permet, quand on a des personnes sur un jour, deux jours, trois jours, dans lesquels on va être amené à les accompagner, à les former sur ces différents outils, ça va en tout cas avoir l'intérêt d'avoir un temps long d'échange et d'expliquer aux personnes pourquoi on a choisi ces outils-là, qu'est-ce que ces outils défendent de plus. Et je pense que c'est pas juste le biais de la formation. Il y a des personnes conformes et finalement, quel que soit l'outil, elles le prennent et elles partent de la formation voilà, avec ça, et le reste est passé à la trappe. Mais c'est vraiment, en tout cas pour l'avoir constaté plusieurs fois, on a eu des personnes pendant des formations et il y a vraiment eu ce déclic de comprendre finalement tous les enjeux qui sont liés autour du libre et autour des logiciels qu'on défend, etc. Et avec ces personnes qui disent « Ah oui, ça y est, enfin, j'ai compris ce que c'était, j'ai compris ce que vous défendiez », pas simplement par la partie technique et l'appropriation de l'outil, mais... Et ça leur permet, par exemple, après, de mieux tolérer pourquoi un outil est peut-être moins pratique, ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité dans l'outil. Et c'est pas grave, ça fait partie du deal, parce que derrière, ça transporte et ça amène d'autres valeurs qu'elles vont partager. Et donc, je crois vraiment que la formation est nécessaire, mais c'est l'information qui complète ça, qui permet de convaincre les personnes et d'expliquer le bien fondé de tout ça.
Merci François. Alors du coup, dans une association, dans des associations plus petites, sans salariés, comment ça se passe, Zatalise, l'accompagnement, la formation?
Finalement, il y a aussi de la formation et de l'accompagnement. Ça ne prend pas forcément la formule classique de se retrouver tous en présentiel pendant une journée pour comprendre comment fonctionnent certains outils. C'est beaucoup plus dans la discussion, finalement. On discute avec les gens et puis on voit pourquoi est-ce que tu n'utilises pas tel outil? Est-ce que c'est parce qu'il est mal foutu? Ça arrive. Et ça, on peut intervenir du coup. Ou est-ce que c'est parce que les personnes n'ont pas compris comment l'utiliser? Donc là, on prend du temps pour expliquer. Et puis, on renvoie beaucoup sur les tutoriels. On fait, nous, de notre côté, énormément de tutoriels sur comment utiliser les différents outils. Donc, ça permet justement aux gens de prendre ça un peu en main. Sachant quand même que ça demande qu'il y ait quand même une certaine autonomie des gens, d'aller voir des tutoriels, de lire parfois des pavés de texte quand même, pour essayer de comprendre les trucs. Après, on a fait aussi des visios justement sur certains outils pour essayer de les prendre en main. Je pense entre autres à notre logiciel de gestion des mails en collaboratif. On avait fait une visio sur une heure à peu près pour répondre aux différentes questions des gens qui l'utilisaient sur comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on va utiliser tel et tel truc. Donc voilà, ça se fait un petit peu suivant les besoins, suivant les demandes, l'objectif étant effectivement que les adhérents puissent utiliser les outils de la façon la plus fluide possible. Et si un outil n'est pas pratique, c'est soit qu'il faut qu'on le modifie nous, soit qu'il faut qu'on trouve un autre outil.
Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à questionner l'outil, mais ça peut être aussi une réponse aux difficultés rencontrées, effectivement. Mathieu, pour le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, comment vous considérez la formation?
Un peu de la même manière, sur les outils qu'on va mettre en place, donc tout à l'heure je parlais de formulaire de collecte de données sur le terrain, donc on va mettre en place et on va créer des tutos ou des vidéos qui montrent comment utiliser le formulaire et qui appuie un petit peu, qui illustre la logique du formulaire qu'on pourrait décrire dans un document. Et après, pour les logiciels, de manière plus classique, on va avoir deux niveaux de formation, disons. Un niveau qu'on va assurer en interne, donc mes collègues ou moi-même, on va regrouper les collègues qui ont certaines questions en commun, et puis on va un peu sous forme de travaux pratiques répondre à ces questions sur l'outil. Par contre, parfois, ça va passer, donc là c'est ce qu'on va faire là, à la rentrée, ça va passer par deux semaines de formation avec un prestataire extérieur sur un outil particulier. Donc on va essayer de regrouper les collègues selon différents niveaux de compétences, et puis trouver des formations adaptées pour répondre à ce besoin-là, et puis à faire en sorte que l'équipe soit correctement formé à l'outil, puis qu'il puisse aussi y avoir de l'entraide entre les collègues. Donc ça va être un second niveau, donc en passant par le plan de formation de la structure, en fait.
D'accord, j'ai entendu une formation de deux semaines, c'est bien ça?
Non, pas du tout. C'est des formations d'une semaine, plus classique, on va créer des groupes de niveau, en fait, et puis chacun des groupes de niveau va aller avec un formateur suivre une formation spécifique et qui répondra à son niveau précis.
D'accord. Et une question peut-être qui interroge tout le monde, la question du turnover dans l'association, est-ce que ça pèse sur justement la formation, l'accompagnement, ou finalement c'est un impensé, c'est conscientisé?
Ben non, c'est pas un impensé, mais même sans parler de turnover, là simplement l'arrivée de, enfin, passer de 60 à 100 collègues en deux ans, ça veut dire des personnes à qui il faut mettre le pied à l'étrier, à qui il faut expliquer l'historique un petit peu du système d'information, à qui il faut parfois expliquer les outils. Donc dans les gens qui vont partir en formation sur, je pense à l'outil cartographie QGIS, il y a beaucoup des nouveaux qui sont là. qui n'ont pas forcément appris le logiciel à la fac, même si, ou à l'école, même si on a la chance quand même d'avoir maintenant des formations qui utilisent des logiciels libres pour des applications métiers de cartographie notamment. Mais sans parler du turnover, donc simplement intégrer les nouveaux collègues, ça nécessite en effet de mettre en place des ressources internes qui vont être consultables, mais ça nécessite de l'animation parce que dire à quelqu'un tout est expliqué sur le forum, on se rend compte que ça suffit pas et que peut-être il faut qu'on s'organise aussi en conséquence pour pourquoi pas avoir quelqu'un dont une partie de la tâche serait un petit peu de faire cette formation interne et puis de d'être un petit peu proactif sur ces aspects-là avec l'accueil des nouveaux.
François,
que turnover, c'est-à-dire changement,
roulement littéralement d'équipe. Personne ne connaît pas le terme.
François a acquiescé hein, quand tu as dit ça ne suffit pas de renvoyer les gens vers le forum ou vers les tutoriels. Hein. Donc,
Au départ, on y croit et on espère, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas et que les collègues se disent qu'il y a trop d'infos et que nous, comme on alimente beaucoup de forums, on sait que c'est là, mais c'est vrai que les collègues, ils ont leur mission, ils ont leur travail quotidien et que c'est pas évident pour eux d'absorber tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a, on est en pleine réflexion là-dessus, mais il y a un travail d'animation de tout ça à mener. Ouais.
Et puis souvent, la documentation, elle est faite pour celui qui l'écrit, pas pour ceux qui la lisent pas.
Non, mais c'est vrai que le fait d'écrire la documentation aide celui qui l'écrit beaucoup. C'est vrai que c'est parfois une étape importante pour les gens qui veulent aussi s'auto-former. Donc, mais c'est vrai que c'est pas toujours lisible ou compréhensible. Et c'était pas forcément le point précis qui était cherché par la personne qui lit derrière. Quoi. Voilà, il y a toutes ces questions-là, évidemment. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors j'avais peut-être, on approche de la fin de notre sujet long là. J'avais peut-être une dernière question plus particulièrement à Zatalyse. Alors la présence de femmes en tant que responsables de systèmes d'information au sein d'associations reste encore très minoritaire. Est-ce que tu aurais peut-être des clés à nous donner est-ce qu'il faut se battre d'abord et si on veut être responsable du système d'information, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des précautions? Est-ce qu'il y a des clés à avoir en main?
C'est toujours une question un peu complexe. Disons que vraiment, je pense que le fait d'être une femme dans ce genre de poste-là, c'est pas plus compliqué que d'être handicapée ou être neuroatypique ou être queer ou être issue des milieux populaires. Et tout ça, ça me caractérise aussi pour ce qui est visible. Et donc, est-ce que c'est facile? Oui et non, ça dépend beaucoup de là où on tombe. J'ai la chance dans les associations en question, dans des milieux qui sont extrêmement bienveillants, qui sont aussi formés autour des questions de la discrimination. Donc finalement, je suis vue comme une personne avant tout. Et tous ces trucs-là, toutes ces étiquettes, elles sont pas forcément pertinentes. C'est tant que je fais le taf, tant que je sais bidouiller et que j'avance, c'est ce qui suffit et c'est le cas de tous les membres de l'asso. Il y a d'autres groupes évidemment où c'est pas aussi simple. J'ai été dans des assos ou dans des projets où le fait de ne pas être dans la norme était difficile. Et donc là, c'est soit de m'approprier les mêmes codes, c'est-à-dire d'être aussi brutaliste que les autres en face et de poser mes couilles sur la table même si j'en ai pas. Mais je trouve que c'est pas forcément très confortable et que finalement dans ce genre de structure on passe beaucoup de temps juste à se battre pour des enjeux de pouvoir finalement, alors que dans des milieux plus altères, là où on se bat c'est pour faire le boulot et c'est quand même beaucoup plus satisfaisant à tout point de vue. Donc voilà, en gros.
Oui, donc si je résume, en fait, il suffit de bien choisir l'association dans laquelle on veut s'impliquer en tant que responsable du système d'information. Mais c'est un.
Ça ne veut pas dire que c'est impossible de s'intégrer dans d'autres groupes, mais ça demande des efforts qui sont différents. Et pour moi, c'est pas simplement d'être une femme. Hein. C'est vraiment tout ce qui nous fait en tant qu'individu. Dans notre asso, typiquement, on a des hommes qui ont beau être des hommes, ils sont timides, ils sont pas à l'aise dans plein de situations. Donc, c'est pas plus simple pour eux non plus dans ce genre de cadre. Voilà.
Merci. En tout cas, je trouve que cet éclairage est extrêmement intéressant aussi dans le cadre de l'émission. Il nous reste, on va dire 4-5 minutes pour un dernier tour de table pour dire tout ce que vous auriez oublié. Tout à l'heure, François, pendant la pause musicale, me disait « j'ai oublié de dire plein de trucs », donc c'est maintenant, François. Mais voilà, chacun votre tour, comme vous voulez. Qui veut prendre la parole?
Oui, bah, je peux y aller. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, lors du dernier congrès là, d'août, les CMA ont écrit noir sur blanc que les CMA défendaient le logiciel libre, la protection des données. Donc c'est vraiment maintenant ancré et plus personne ne peut s'y opposer. Ce qui fait que même les personnes les plus réticentes, parce que tout n'est pas rose non plus, hein, je tresse des grands traits, mais tout n'est pas rose. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité aussi des CMA, à tel point, et ça c'était le deuxième point, qu'on a une personne qui est chargée à temps plein de défendre ces valeurs-là, donc avec une mission éducation et commun du numérique, en la personne de Laurent Costi, ici présent. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui fait partie de l'identité et qui est défendu par beaucoup de personnes. Voilà ce que je voulais rajouter.
Merci François. Zatalise ou ouais Zatalise.
Je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'était chouette. Et c'est pas toujours facile de prendre la parole en public. On parlait juste avant voilà cette question de qu'est-ce que c'est qu'être femme, faire partie des minorités, etc. Bah il y a quand même ce côté-là où on a l'habitude d'être en retrait beaucoup et c'est très très difficile de faire cette démarche d'être un peu sur le devant de la scène. Donc c'est pas simple. Mais c'est aussi possible parce que justement, il y a des milieux bienveillants qui nous aident à montrer un peu notre voix aussi et à nous dire qu'on est légitime à intervenir et ça c'est... Merci.
Ben en tout cas, vu d'ici, tu t'es absolument bien débrouillé, hein, si ça peut te rassurer. En tout cas, c'était remarquable les interventions et ça complétait très bien les autres interventions. Mathieu ?
Oui, ben donc moi éventuellement j'aimerais bien en profiter, là je vais remercier mes quatre collègues hein, avec qui je fais tout ça, donc Laurent et Hugo à Toulouse et puis Eric et Nathalie à Montpellier, donc ça c'est pour la partie travail en équipe. Et après peut-être évoquer le challenge un peu pour nous, moi je considère qu'on est utilisateur de logiciels libres, mais principalement consommateur en fait de logiciels libres, et qu'une des difficultés que je ressens moi c'est de participer à cette communauté, en tout cas de faire en sorte de l'aider, de financer un petit peu, et c'est pas simple. Donc c'est un peu le challenge pour moi. Là, j'aimerais qu'on arrive à, notamment, je parlais d'un outil tout à l'heure au DECA, j'aimerais qu'on arrive à financer un petit peu, mais c'est pas évident dans le cadre des projets ou quand on cherche des fonds, c'est pas évident de justifier de pouvoir contribuer comme ça. C'est facile d'acheter une boîte avec un logiciel dedans, mais contribuer à du livre, c'est pas si simple. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais réussir dans les mois qui viennent.
Oui, alors ça c'est un point important qu'on n'a pas forcément évoqué, mais cette question de la mutualisation interassociative se pose de plus en plus, c'est de plus en plus mûr je pense, donc là il faut se tourner vers les têtes de réseau qui doivent se parler pour collecter les besoins identiques et faire développer après en commun des besoins quoi. Donc ça c'est des vraies questions. Après il y a des outils qui se développent, Contribule, Framasoft a contribué, enfin il y a plein d'outils, mais il y a encore des choses à asseoir sur cette mutualisation entre associations, tête de réseau d'associations, de mon point de vue. Il y a encore du travail.
Et puis pour le faire.
Oui. Je vais profiter de ce silence pour reprendre la parole, parce que malheureusement le temps de ce sujet arrive à sa fin. Mais un grand merci à Laurent, à Mathieu, à François et à Zatalise. D'un point de vue extérieur, j'ai trouvé ça très intéressant à écouter. Et voilà, à bientôt pour d'autres sujets similaires. Donc un grand merci pour ce temps d'échange. Et je vous propose maintenant de faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Et pour cette dernière pause, on va rester dans la musique libre, mais on va changer de style, sans trop se prendre la tête non plus. Nous allons écouter « La Carmagnole » à Saïra par Léon Lissner et Anne Friends. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
De faire égorger tout Paris. Et son coup à manquer,
grâce à nos canonniers.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Monsieur
Vitaux
avait promis
d'être fidèle à sa patrie.
Mais il y a manqué.
Ne faisons plus qu'à qui. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. À
restant toujours unis, amis restant toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Si on les prend pas, on les rompra. Si on les rompt pas, on les brûlera.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
Nous venons d'écouter La Carmagnole à Saïra par Leon Listener and Friends, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu pour l'April, nous diffusons en direct et j'ai le plaisir d'avoir avec moi des personnes joviales et un peu dissipées, certes, mais ce n'est pas grave, nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » proposée par Marie-Odile Morandi et lue par Laure-Élise Deniel. Un épisode préenregistré intitulé « De la couleur de nos cerveaux ». On se retrouve dans environ 10 minutes sur Cause Commune.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un thème récurrent et dont l'importance s'est accrue ces derniers mois concerne la place des jeunes filles et des femmes dans les études scientifiques, en particulier en informatique, ainsi que dans les métiers correspondants. De nombreuses conférences et tables rondes sur ce sujet ont été transcrites par notre groupe, Transcription. La liste est à votre disposition sur la page des références de l'émission d'aujourd'hui, sur le site libreavoue.org. Pour cette chronique, Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, de septembre 2022, il nous a semblé important de mettre le focus sur ce problème afin de partager les réflexions et remarques des intervenants et intervenantes, en particulier celle d'Isabelle Collet et les solutions que l'on peut mettre en œuvre. Isabelle Collet est une informaticienne de formation, enseignante-chercheuse, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Elle s'adresse aux questions de genre et aux discriminations des femmes dans l'informatique et dans les sciences. Le constat est amer. Actuellement, en Occident, Europe et États-Unis, et parce qu'on inclut tous les métiers de support, administration, documentation et communication, on compte 25 à 30% de femmes dans le numérique. Si on se restreint à la dimension vraiment technique, on est plutôt aux alentours de 15%. Et plus la partie considérée est en pointe, moins il y a de femmes. Par exemple, 12% dans l'intelligence artificielle. Bref, pas beaucoup de femmes dans le numérique, même dans la filière du libre, alors que la communauté se dit ouverte, avec des valeurs et une volonté politique. Et pourtant, au XIXe siècle, le premier programme informatique sur un ordinateur mécanique a été réalisé par une femme, Ada Lovelace. Le premier compilateur, ce qui permet de traduire le code écrit en langage de programmation en langage compréhensible par la machine, a été conçu par Grace Hopper. Et sous la direction de Margaret Hamilton, ce sont des femmes qui ont écrit le programme Apollo en 1969. Que se passe-t-il durant les années 70-80 ? La programmation acquiert ses lettres de noblesse. On commence à se dire que programmer demande de la logique, que cela est proche des mathématiques, avec à la clé des métiers conduisant à des responsabilités. L'informatique change de statut. Elle offre des emplois prestigieux, de bons salaires, de belles carrières. Des filières s'ouvrent dans les universités de sciences dites dures, là où les hommes sont déjà, et les sciences dites molles étant destinées aux femmes. C'est la division socio-sexuée des savoirs. La valeur sociale de ces métiers augmente, ils se masculinisent. Simultanément, les micro-ordinateurs arrivent dans les foyers. Les garçons en sont équipés en premier, comme chaque fois qu'un nouvel objet technologique fait son apparition. Pour l'ensemble de la société, se crée l'image de celui qu'on appelle aujourd'hui le geek, le stéréotype de l'informaticien. Le micro-ordinateur arrive aussi en entreprise. Dans l'imaginaire des adultes qui entourent ces adolescents, parents et enseignants, se crée une représentation de fausse continuité entre le micro-ordinateur installé dans les familles, souvent pour jouer, et le micro-ordinateur installé dans l'entreprise pour travailler. La voie de ces jeunes hommes est tracée. Ils font des études d'informatique, obtiennent des diplômes et sont embauchés. La proportion de femmes dans ces études et ces emplois chute considérablement. Une espèce de spirale négative se crée, c'est-à-dire que moins on y trouve de femmes, plus on imagine qu'il est normal qu'elles ne soient pas là. Et pourtant, on parle bien de la même programmation. Les filles ont des doutes. Un sentiment d'illégitimité s'installe, avec perte de confiance en soi et en son efficacité. Leur comportement pourrait s'apparenter à de l'autocensure, alors que c'est une censure sociale qu'elles subissent. C'est le poids des normes et des stéréotypes qu'elles supportent depuis l'enfance, continuellement. Ce n'est pas une fatalité biologique. Il n'y a pas de science pour les filles et des sciences pour les garçons. Hommes et femmes ont évidemment des capacités cognitives identiques, mais dès l'enfance, on socialise garçons et filles à des destins différents. Pour Isabelle Collet, ces stéréotypes permettent de prolonger un ordre social. Il est temps de mettre en discussion cette construction bien ancrée, et cela veut dire lever la censure sociale, changer le système, et ce n'est pas simple. Il est banal de dire que le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie d'aujourd'hui, dans celle de demain. Mais peut-on tranquillement s'accommoder du fait que ce numérique est imaginé, conçu, paramétré, maintenu par une population à peu près homogène, composée à 85% d'hommes blancs ? Peut-on se satisfaire d'une situation dans laquelle il n'y a que 15% de femmes qui participent à inventer le monde de demain ? Se diriger vers une société numérique inclusive demande plus de mixité dans les systèmes qui la préparent. Des solutions sont proposées, certaines ayant déjà été mises en œuvre avec succès, c'est-à-dire une augmentation du nombre de jeunes femmes inscrites dans ces filières. Mettre les élèves très tôt au contact de l'informatique dans des salles neutres, sans posters qui représentent souvent des modèles masculins. Changer le discours qui est tenu aux filles dans les écoles et promouvoir une image plus inclusive de l'informatique. Elles sont à leur place dans ce type d'études au même titre que les garçons. Proposer des exercices et projets autres que des problèmes de mathématiques pour casser le biais informatique égale mathématiques et insister sur le fait que si on n'aime pas les jeux, en particulier les jeux vidéo, on peut tout à fait réussir des études d'informatique et devenir informaticienne. Lors de la rédaction des bulletins, enseignants et enseignantes doivent bannir les formules « élèves studieuses et laborieuses » pour les filles et « garçons brillants mais ne travaillent pas assez » pour les garçons. Ne pas hésiter à mettre des quotas à l'entrée de ce genre d'études dans le supérieur. Les filles rencontrent tellement d'obstacles sur le parcours précédant leur choix d'orientation, du fait du poids des normes et des stéréotypes, qu'il s'agit d'un juste retour, d'un rattrapage. On obtient alors, avec plus de filles qui ont été sélectionnées en amont, une meilleure promotion. Composer des groupes de travail vraiment mixtes, 50-50, ou uniquement féminins, afin de ne pas abandonner une fille seule au sein d'un groupe de garçons. Organiser des groupes d'échange composés uniquement de femmes. Organiser du mentorat pour accompagner spécifiquement les femmes. Inviter des femmes rôle modèles, en les choisissant proches du public auquel elles devront s'adresser. Établir des codes de conduite, de façon à rendre les ambiances de travail inclusives, faisant de la mixité une force. Et la liste n'est pas exhaustive. Les idées ne manquent pas, mais sans réelle politique au sein des établissements scolaires, sans politique institutionnelle volontaire, les progrès resteront insuffisants. Le constat amène à une certaine mobilisation de la part des pouvoirs publics, et non des moindres. En France, la nomination de Alexis Kaufmann, en septembre 2021, à la direction du numérique pour l'éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale, avec une double casquette. Chef de projet logiciel et ressources éducatives libres, mais surtout mixité dans les filières du numérique. Les choix d'orientation qui se font au lycée se répercutent évidemment dans l'enseignement supérieur et ensuite sur le marché du travail, mais il est difficile pour les lycéennes de faire des choix libres et autonomes. Le ministère de l'Éducation a créé un label égalité filles-garçons. Différents critères sont listés. L'établissement, dans sa politique globale, est-il inclusif avec pratique de l'égalité ? A-t-il réussi à faire remonter certains pourcentages dans les filières trop déséquilibrées ? Lutte-t-il contre les stéréotypes de genre, avec accès pour toutes et tous à une orientation moins genrée ? La famille a aussi son rôle à jouer, en particulier dans l'éducation de ses filles. Isabelle Collet nous dévoile son enfance avec sa sœur et son père, père à qui le fait d'avoir des filles n'a jamais posé le moindre souci. qui leur a donné le goût des sciences et a appris à programmer à Isabelle. D'ailleurs, Marion Monet, chercheuse postdoctorante à l'Institut national d'études démographiques, la transcription de l'une de ses conférences est à votre disposition, nous explique que dans les familles où il n'y a que des filles, les pères passent du temps à partager les contenus scientifiques avec elles, alors que dans les familles où il y a des enfants des deux genres, ce temps est plutôt réservé aux garçons. Le monde du libre n'est pas exempt de situations délétères. Tous n'ont pas pris acte, là non plus, des discriminations faites aux femmes et des inégalités. Peut-être en avions-nous trop attendu. L'April s'intéresse énormément à ce sujet de la mixité dans les filières du numérique. Diverses émissions Libre à vous récentes ont été consacrées à ce sujet. La société se numérise, tous les secteurs d'activité se numérisent et doivent le faire pour l'ensemble de nos communautés, car la vie est mixte. Garçons et filles, tous et toutes, nous devons comprendre que la transition numérique en cours ne peut mener à une société inclusive, fonctionnelle et émancipatrice si elle est préparée uniquement par une partie de la population. Ce n'est pas tant que les filles ont besoin d'aller en informatique, c'est que l'informatique a besoin d'elles si elle veut être performante. Nous vous encourageons à lire ou relire ces transcriptions en gardant à l'esprit que la biologie ne joue aucun rôle, n'a rien à voir dans cette affaire, qu'il n'y a pas de cerveau rose et de cerveau bleu. Expression chère à Isabelle Collet.
Nous venons d'écouter la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » proposée par Marie-Odile Morandi et lue par Laure-Élise Daniel. Un épisode préenregistré intitulé « De la couleur de nos cerveaux ». Et moi, j'en profitais pour voilà, trouver que c'était encore une très belle chronique et dire bravo et merci à Marie-Odile pour, pour son excellent esprit de synthèse des différentes interventions qu'elle a pu transcrire. Et puis, bravo et merci également à Laure-Élise Daniel qui lui donne énormément de profondeur avec sa voix. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Aussi, venez parler de libertés informatiques dans le micro avec Libre à vous. Libre à vous est avant tout un projet collectif et une des manières de contribuer et de nous proposer des sujets, voire d'y participer. N'hésitez pas à nous faire des propositions et nous serons ravis d'en discuter avec vous. Et si ça vous tente, pourquoi pas même animer un sujet long? Bien sûr, nous vous accompagnerions dans ce projet et nous nous occuperions de toute la partie technique. Plus d'infos sur le site de l'April, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et sinon, que faites-vous vendredi 23 septembre à l'heure de l'apéro? Et si vous veniez à notre rencontre? Vendredi 23, donc, à partir de 19h, l'April propose un apéro dans ses locaux dans le 14e arrondissement de Paris. À cette occasion, il y aura une présentation de notre chapril, des services en ligne libre, décentralisés et respectueux des données personnelles des utilisateurs et des utilisatrices. Si vous êtes du côté de Marseille, entre le jeudi 22 et le dimanche 25 septembre, je vous invite à découvrir le tout premier festival Technopolis. 4 jours de films, de débats et rencontres entre collectifs qui luttent contre les technologies de surveillance en France, Belgique et en passant par Belgrade. Le festival est ouvert largement au public, entrée libre et gratuite. Enfin, si vous êtes du côté de Lens, les 28 et 29 septembre se tiendront les journées numériques en commun au Stade Bollard. Billets gratuits, il reste encore un peu plus de 150 places, il en restait du moins ce matin, je pense qu'il en reste encore quelques-unes en cet après-midi. Et je vous invite comme d'habitude à consulter le site agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations du logiciel libre près de chez vous. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. G, Laurent Costi, François Audiract, Mathieu Bossard, Zatalise, Marie-Odile Morandi, ainsi que Laure-Élise Daniel. Aux manettes de la régie, aujourd'hui, Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudin, Languin, tous bénévoles à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous trouverez sur notre site libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous vous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques, questions ou propositions d'émissions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio. pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 27 septembre 2022, à 15h30 toujours. Nous vous proposerons un retour d'expérience de deux membres du collectif Chaton qui proposent des services libres et éthiques sur les sujets d'éducation. Les deux membres proposent sur les sujets d'éducation, les chatons ont une portée beaucoup plus large que ce seul sujet. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le 27 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.